Power. La RDC compte aujourd'hui 215 inspecteurs de travail, dont la moitié a atteint l'âge des retraites. Déclaration hier du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale à l'occasion de la clôture de la 38e session ordinaire du Centre Régional d'Administration du Travail, CRADAT en sigle. Modeste Bahati affirme que le gouvernement congolais a décidé de recruter sur concours 1000 inspecteurs de travail pour constater sur terrain les infractions en matière du respect des droits du travail. Quelle analyse faire de cette déclaration? Nous en parlons avec Modeste Bahati Lukwebo. Il est ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale du gouvernement central. Bonsoir, monsieur le ministre Bahati Lukwebo.
Bonsoir.
Professeur Arsène Mouaka, il est professeur à l'Université de Kinshasa. Il est député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Bonsoir, professeur Arsène Mouaka. Voilà, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Et Polydor Tangeli, il est psychologue du travail, analyste des questions sociales et expert en matière du travail. Bonsoir Polydor Tangeli.
Bonsoir, bonsoir.
Plusieurs réactions, parmi lesquelles celles de Gérard Kazingoufou de Beni au Nord Kivu. L'initiative de former les inspecteurs du travail est bonne, mais la question qui demeure est de savoir si les maux qui rongent ce secteur sont consécutifs à la carence des inspecteurs ou à la mauvaise politique générale du pays. Bienvenue à tous dans cette émission.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Les ministres des 18 pays membres de CRADAT ayant en charge l'emploi et le travail étaient ce mercredi en 38e session ordinaire du conseil d'administration à Kinshasa. Le CRADAT est le centre régional africain d'administration du travail dont le siège est basé à Yaoundé au Cameroun. Créé en 1965 sur demande du Bureau international du travail BIT en sigle et sur financement du PNID, le CRADAT forme les inspecteurs et les contrôleurs du travail et intensifie la coopération technique mutuelle entre les pays membres. Mais quel est l'état de l'administration du travail en RDC? On écoute la réponse de Modeste Bahati, ministre congolais de l'Emploi, au micro de Innocent Olenga.
Quand vous prenez l'exemple du monde du commerce, vous avez beaucoup de gens qui évoluent là-bas et qui emploient des compatriotes sans contrat de travail, qui ne respectent pas les horaires de travail, qui ne respectent pas les droits des femmes, qui font une discrimination criante entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les avantages. Quand vous allez dans le secteur des télécommunications, il y a là une sorte de mafia qui s'est installée avec le système de recours à des entreprises de recrutement. Donc, ces entreprises-là, au lieu de rendre effectivement ce qu'ils doivent rendre aux travailleurs, nous avons constaté qu'ils en font un business à telle enseigne que le salaire réel qui est payé par l'entreprise, ce n'est pas celui-là qui est payé à l'employé. Donc, en fait, les entreprises de placement se substituent aux employeurs pour qu'à leur tour, ils puissent gérer les travailleurs et leur donner les salaires à leur guise. C'est une situation tout à fait inacceptable. Cela est également observé dans le secteur minier. Et donc, je peux vous dire que dans le monde du travail, il y a beaucoup de problèmes. Malheureusement, nous avons très peu d'inspecteurs du travail. Sur l'ensemble de la République, nous n'avons que 215 inspecteurs du travail, dont la moitié a déjà atteint l'âge de retraite. Et donc, nous devons à tout prix renouveler, mais aussi augmenter le nombre. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a décidé du recrutement sur concours de 1000 inspecteurs du travail. Cela nous permettra à coup sûr de pouvoir être présents sur terrain pour constater toutes ces infractions, pour constater tout ce qui est dénoncé ci et là en matière du travail, en matière de respect des droits des travailleurs, mais aussi en matière de respect des droits des employeurs.
Notez que la RDC a pris ce mercredi la présidence du conseil d'administration du CRADAT. Modeste Bahati Lukwebo, je rappelle que vous êtes ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale du gouvernement central. Le CRADAT, un centre de formation des experts du monde des travail et plus particulièrement des inspecteurs du travail. D'abord, qu'est-ce qui a motivé la tenue de sa 38e session ordinaire ici en RDC? Et quand on sait qu'en ce qui concerne les mondes du travail, la RDC n'est pas une référence.
Ouais, merci beaucoup pour votre question. Je veux dire que la convention dans ce centre.
Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a moyen de vous déplacer un peu? Essayez de bouger parce qu'on a du mal à vous suivre.
On est obligé d'aller à l'extérieur. Bon. Donc, je vous le dis.
Ça ne va toujours pas. Vous sortez entrecoupé. Monsieur le ministre?
Oui, je vous suis. Je vous suis très bien.
Oui, est-ce que vous pouvez continuer?
Oui. Il disait que la convention portant création du centre régional africain d'administration du travail, CRADAT en sigle.
Monsieur le ministre, on a toujours du mal à vous suivre. Est-ce que vous êtes dans une maison où... Allô, Excellence? Allô? Voilà. Ok. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons vous rappeler, Monsieur Polydor, quelle est l'analyse que vous faites des déclarations du ministre Bahati Lukwebo, qui a affirmé que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, nous n'avons que 215 inspecteurs du travail et dont la moitié a atteint l'âge de retraite.
Merci pour la parole. C'est l'occasion pour moi de saluer les différents auditeurs qui nous suivent au pays et à travers le monde. L'analyse qu'il faut faire de cette déclaration est une analyse typiquement positive. C'est que nous acceptons cette déclaration qui est l'expression d'une volonté politique de vouloir faire changer les choses dans le sens des différentes réformes qui sont en train d'être menées par les gouvernements et à travers l'administration publique, les services de sécurité et ainsi de suite. Mais cependant, en tant qu'analyste, je ne peux pas me réserver de jeter un regard critique vis-à-vis de cette déclaration. Au fait, là, lorsque j'ai suivi cette déclaration, je me suis dit, voilà une énième déclaration relative aux différentes réformes que notre pays est en train d'engager. Rappelez-vous, Monsieur Guy, qu'on a toujours reproché à nos structures un problème de faible fonctionnalité. Et cette faible fonctionnalité exige donc qu'on puisse engager des réformes. Et ces réformes nous imposent de nous accommoder aux exigences de la communauté internationale, à l'évolution du monde. Mais cependant, lorsqu'on veut procéder au changement, soit on change les hommes, on change des instruments ou on change le cadre juridique. Alors, ici, par rapport à ces changements, je suis en train de poser plusieurs questions. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue devant le bœuf? Pourquoi? Lorsque je compare la réforme qu'on veut engager dans les secteurs de l'inspection générale du travail, j'essaye de faire une étude comparative par rapport à d'autres réformes. Récemment, on a engagé, je crois, 1000 à 2000 magistrats. Il y a des réformes au niveau de l'administration publique. Mais je me suis posé une question. On va procéder à cette réforme pour quel changement? Puisqu'en amont, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas remplis. Lesquels? Je tiens ici à rappeler que le cadre juridique est obsolète. Et par cadre juridique, je vois, il y a la gestion administrative des inspecteurs du travail. Ils sont régis par les statuts qui, jusqu'à aujourd'hui, vit une certaine obsolescence et qui est la cause du dysfonctionnement au niveau des services publics de l'État.
Et donc, il faut l'adapter.
Il faut l'adapter. C'est une des conditions essentielles. Sinon, on aura fait appel à d'autres hommes qui ne pourront pas fournir le meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi? Puisque le cadre juridique est en obsolescence. Deuxièmement, l'outil de travail, le code du travail. Le code du travail souffre d'un certain déficit. Il a été modifié, mais je vous rappelle ici qu'il y a certains annexes qui datent des années 60 et qui aujourd'hui, même si on a un nouvel inspecteur, lorsqu'il a un outil de travail déficitaire, ça pose problème. Je rappelle ici que le travail pour les scientifiques est le résultat d'un couplage de conditions internes et externes. Et là, lorsque l'outil de travail qui est utilisé n'est pas adapté à la personne, n'est pas adapté au contexte, ça pose problème et ça détermine le résultat. Par ailleurs, il y a les conditions de travail. Aujourd'hui, les magistrats qu'on a recrutés, certains vivent, certains restent seuls en pleine forêt, sans conditions, sans outils. Et aujourd'hui, le résultat est presque le rétro de la situation antérieure. Et en plus, je me pose la question sur la mise à la retraite. Aujourd'hui, on nous peint un tableau de 215 magistrats qui sont en train de prester et on veut mettre à la retraite ceux qui sont éligibles à la retraite et en recruter 1000. Ce qui veut dire que nous allons avoir une institution qui va fonctionner en disproportion. Ceux qui ont une certaine culture de travail, ceux qui ont une certaine expérience du travail vont représenter 10% de l'ensemble du personnel. Il y aura un dysfonctionnement qui va préparer le chaos à la longue. Par ailleurs, en analysant aussi, j'encourage la réforme, mais je fais des objections, des observations qui pourront profiter à notre pays. Lorsqu'on parle de 1000 inspecteurs à recruter, c'est le résultat d'un mapping ou de contraintes budgétaires. Vous comprenez? Des contraintes budgétaires imposées par les institutions financières qui devront appuyer la réforme. Donc voilà beaucoup de questionnements que je me pose et qui devront faire peut-être l'objet de matières qui pourront être traitées par ceux qui sont acteurs de la réforme. Et je m'en vais aussi insister sur le cadre éthique, puisqu'aujourd'hui notre auditeur a essayé de rappeler qu'au fait, si la culture du travail, la culture d'entreprise reste la même, on aura beau changer de personne, on aura engagé plus de 1000, hein, on aboutira qu'au même résultat. Voilà un peu l'analyse que je fais de cette déclaration, tout en exprimant mon soutien à cette volonté politique de voir les choses changer et aller de l'avant.
Monsieur Polydor Tanguely, vous avez fustigé, n'est-ce pas, le cadre du travail, le cadre juridique plutôt, notamment les codes du travail qui seraient selon vous déficitaires. Oui. Pourtant, le 12 novembre 2012, le Sénat avait adopter la loi modifiant ces codes du travail. Et cette loi avait apporté plusieurs nouveautés, notamment les droits pour les travailleurs de se défendre lorsqu'on envisage contre lui une mesure de licenciement, la fixation de la durée légale des travails à 8 heures par jour et la possibilité pour la femme enceinte de suspendre simplement son contrat de travail sans que cela ne soit considéré comme une cause de résiliation. Cela veut dire qu'il y a quand même des efforts qui ont été fournis sur le plan normatif.
Il y a des efforts, bien sûr, mais je vous rappelle, j'ai parlé des annexes du code et je tiens à signaler ici un annexe, par exemple, les maladies professionnelles. Aujourd'hui, nous avons une liste de maladies professionnelles qui est en obsolescence. La notion de la maladie professionnelle a pris de l'évolution dans le monde occidental et nous sommes au bas niveau. On a évoqué ici les cas des secteurs miniers. Il y a plusieurs maladies professionnelles qui sont acquises dans l'exercice des travaux dans les sites miniers. Alors, on aurait un inspecteur qui sera en déphasage avec la réalité. Il y a aujourd'hui, au niveau international, on reconnaît certaines maladies mentales comme étant des maladies professionnelles. Voilà. Donc, on va réformer pour faire face au changement, à l'évolution, mais hélas, ça va se faire à contre-courant, permettez le terme.
Voilà. Monsieur Modeste Batilukwebo, on me dit que vous êtes en ligne.
Oui, effectivement.
Voilà. La question que j'ai posée, c'était celle de savoir qu'est-ce qui a motivé la tenue de la 38e session ordinaire du CRADAT ici en RDC, quand on sait que, en ce qui concerne les mondes du travail, la RDC n'est pas une référence.
Je vous remercie. J'étais en train de dire que la convention portant statut du Centre régional africain d'administration du travail, à laquelle notre pays est parti, prévoit une rotation en ce qui concerne la tenue des sessions du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration étant en fait la réunion de tous les ministres ayant l'emploi, le travail sous leur responsabilité. Et donc, c'est une rotation alphabétique, nous l'avions voulu ainsi, Il est prévu effectivement que si cela ne peut pas se réaliser pour certaines conditions, notamment de sécurité et autres, le conseil d'administration peut toujours délocaliser le lieu de tenue de la session. Mais pour le cas d'espèce de la RDC, ça coïncidait exactement avec notre tour, donc de la rotation de la tenue du conseil d'administration.
Oui, à l'occasion de la tenue de ces assises, vous avez affirmé que la RDC rencontre beaucoup de problèmes dans les mondes du travail. Et pouvez-vous nous parler de ces diagnostics, n'est-ce pas, que vous avez établis dans ces domaines?
Oui, d'abord, je voudrais nuancer votre assertion lorsque vous dites que la RDC n'est pas un modèle en matière de travail. Je ne sais pas d'où vous tenez vos statistiques ou vos informations, mais je dois vous dire que la liberté syndicale qui accompagne la liberté d'expression et la liberté politique sont là des facteurs qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail. Et donc, quand vous allez dans un pays où il y a la dictature, où il y a le monolithisme politique, où il y a le monolithisme syndical, il est évident que nous pouvons quand même nous targuer de dire que la RDC a une certaine avancée. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes, nous avons hérité d'une situation très très difficile de la colonisation. On a formé des gens et malheureusement, sans tenir compte des besoins réels des entreprises, ce qui fait que nous sommes là devant un paradoxe d'un pays où il y a beaucoup de cadres formés, mais où le taux de chômage est également très élevé, parce que vous êtes d'accord avec moi que nous pouvons avoir autant de docteurs en sciences, nous pouvons avoir autant de licenciés, autant de masters en droit, en économie pure ou je ne sais quoi. Eh bien, cela ne répond pas nécessairement aux besoins de la société ou des entreprises.
Merci.
Lorsqu'on veut construire une maison, on a besoin d'un maçon, on a besoin d'un plombier, d'un électricien, d'un charpentier. Et ce sont là des métiers qui devraient attirer notre attention. C'est pour cette raison que, conscient de cette situation, le gouvernement a décidé de mettre un accent particulier sur l'enseignement technique, mais aussi sur la formation professionnelle.
Oui, monsieur le ministre, vous pouvez maintenant nous parler des problèmes que vous avez décelés dans ce monde du travail.
Dans le monde du travail, comme je l'ai dit dans une des interviews antérieures, le fait que l'administration publique, d'abord dans son ensemble, soit faible, ça il faut le reconnaître. Ceci a des répercussions sur tous les secteurs de la vie nationale, et notamment sur le travail. Et donc, le fait qu'il y ait un problème au niveau de dynamisme au niveau de l'administration, lequel vient s'ajouter au problème de moralité que tout le monde reconnaît, avec tous les mots qui caractérisent notre société. Et si à cela s'ajoute en plus l'aménuisement en termes d'offres du personnel qualifié, comme c'est le cas pour l'inspection générale du travail, et parce que 215 pour un pays comme le nôtre, je crois que tout le monde reconnaît que c'est absolument insignifiant. Et si en plus de cela, ils sont déjà pour la plupart éligibles à la retraite, vous comprenez tout de suite que cela influe sur le rendement. C'est déjà un problème sérieux du côté de l'administration du travail. La conséquence, c'est laquelle? C'est que les employeurs, ils profitent de cette situation pour violer en fait les textes en vigueur, du fait qu'ils ne sont pas contrôlés, ou alors ils sont pas, même quand ils sont contrôlés, les tares que j'ai évoqués plus haut font que finalement on sacrifie le faible, et le faible ici c'est le travailleur. Et bien toutes ces questions-là qui viennent s'ajouter au contexte du chômage où il y a en fait très peu d'emplois qui sont offerts, la conséquence, vous devinez, c'est que les gens acceptent n'importe quel travail, un travail au rabais, un travail qui n'est pas décent, et parfois ils sont maltraités et leurs droits sont bafoués, mais ils n'osent pas s'exprimer ou alors ils n'osent pas démissionner du fait qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Donc dans ce contexte-là, on ne peut pas parler d'un travail décent. Donc là, c'est le résumé des problèmes que nous vivons. Et donc, quand vous allez dans le secteur minier, ce problème se pose. Les sociétés de télécommunications, le commerce, ainsi de suite. Mais alors, il y a aussi le fait qu'on n'a pas formé suffisamment des gens dans les corps des métiers.
Monsieur le ministre,
vous allez au Katanga, vous posez la question aux gestionnaires des sociétés de mining. Mais ces gens-là vous disent, nous voulons bien recruter les Congolais, mais présentez-moi des Congolais qui ont tel profil, par exemple conducteurs de gros engins, pour que nous puissions les recruter. Et lorsque nous nous regardons, nous trouvons que nous n'en avons pas. Et donc, nous sommes obligés de les autoriser à importer la main-d'œuvre de l'extérieur, et particulièrement de l'Asie, ainsi de suite, en attendant que nous mettions au point un système qui puisse nous permettre d'avoir une grande offre en termes de personnes formées dans les différents corps de métiers.
Monsieur le ministre, vous indexez certains secteurs, c'est notamment le monde du commerce, vous venez d'en parler, où l'on exploite des compatriotes sans contrat de travail, et les horaires ne sont pas respectés, les droits des femmes sont bafoués. Et vous dénoncez aussi un système qui s'est installé dans les secteurs des télécommunications et qui consiste à utiliser les entreprises de recrutement qui, à leur tour, donnent des miettes aux travailleurs. Monsieur le ministre, c'est une situation connue de tous et qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça s'est fait au vu, au sud de tout le monde. On a même l'impression que l'État congolais est impuissant, n'est-ce pas, vis-à-vis de ses employeurs, ou alors l'État congolais encourage et cautionne, n'est-ce pas, les comportements de ses employeurs.
Oh, l'État ne peut pas s'avouer impuissant, mais nous sommes là devant des faits précis. Nous sommes là devant un déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi. Bon, l'intervenant de tout à l'heure, que je félicite d'ailleurs et que je remercie pour sa précieuse contribution, M. Tangeli, a évoqué un bon nombre de faits, de griefs, et notamment en ce qui concerne les textes qui doivent être adaptés. Lorsque nous sommes arrivés au ministère, nous avions vite compris qu'effectivement, qu'il fallait adapter les textes au contexte. Et c'est ce qui nous a poussé à prendre une série de textes que nous avons proposés au gouvernement et du gouvernement pour le Parlement. Il est vrai que pour les annexes du Code du travail, nous avons pensé qu'il fallait d'abord le texte de base, et il y a deux semaines de cela que nous avions approuvé les termes de référence en ce qui concerne l'atelier organisé par le programme ProSécu et le programme PNPS pour justement revoir et adapter la liste des maladies professionnelles. Il n'y a pas que ce travail à faire. Eh bien, nous étions bien sûr conscients que tous ces textes-là doivent être d'abord mis à jour avant d'entreprendre toute grande réforme. Donc la réforme commence par les textes. Et maintenant, les actions vont suivant une feuille de route à adopter au niveau du Conseil des ministres.
Voilà, Monsieur Polydor Tangeli, le ministre l'a dit, la réforme devait commencer par les textes, donc il faut, en un mot, commencer d'abord par améliorer les plans normatifs avant d'envisager de recruter de nouveaux inspecteurs.
Voilà, c'est une question cruciale, c'est une question cruciale. Mais au-delà du fait qu'on est appelé à faire la révision du cadre juridique, j'aurais bien voulu qu'on s'en tienne aussi au processus de recrutement. Puisqu'au fait, tout part de la politique d'emploi. Au fait, je pense que lorsque le gouvernement congolais à l'image du monde occidental. Mais l'homme au centre du travail, je crois, tout ce qui arrive dans nos milieux, dans nos milieux professionnels, ne pouvait pas arriver. Au fait, nous avons comme impression qu'on nous peint ici un tableau d'un travailleur qui est délaissé, alors que de toutes les théories managériales, l'homme est au centre du travail. Donc, j'insiste aussi sur le processus de recrutement. Il faut un recrutement diversifié, diversifié par rapport aux différentes spécialités relatives aux missions reconnues aux inspecteurs du travail. Donc, c'est aussi un élément. Mais au-delà de ça, au-delà du cadre juridique et du processus de recrutement, il y a aussi un processus de remplacement. Puisqu'au fait, il est anormal de vider une institution de toute sa moitié et de le remplacer par plus de 2 fois. De quelle manière? L'institution va connaître une période de transition difficile et s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, on peut même rater la réforme. Et c'est pratiquement à l'image du ministère de Finances, d'autres ministères, où on a fait une mise à la retraite à la raclée. On a bombardé des grades aux gens sans respect du statut et ça a créé un remous impossible, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui doivent accompagner aussi les cadres juridiques et notamment les conditions de travail, mon frère. Les conditions de travail, si je suis recruté par un bureau international qui vient, je suis formé par un bureau international et que je retrouve la même chaise en mauvais état que l'ancien inspecteur du travail utilisait et qui avait 70 ans, même si j'ai 30 ans, mon frère, les conditions ne sont pas réunies, je vais faire la reconduction des écueils reprochés à mes prédécesseurs.
Voilà, Monsieur Tanguely Polidor, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Béni au Nord Kivu.
Eugène Matembela, j'appelle des Béni. Le constat fait par le ministre du Travail et Prévoyance sociale est l'une des mesures qui peuvent redorer encore l'image de la fonction publique. Mais le plus important, c'est de dépolitiser l'administration publique, car la plupart des rares jeunes cadres de la fonction publique sont nommés sur leur appartenance politique et non leurs compétences. Et se conformer mieux aux ordres de leur chef politique qu'au règlement du travail, ce qui conduit de plus à la médiocrité du travail et services rendus.
Monsieur Polidor Tanguely, vous avez évoqué les problèmes liés au processus des recrutements.
Oui, effectivement, je parlais du recrutement diversifié, puisqu'au fait, il y a plusieurs missions reconnues à l'inspecteur du travail. Il y a le fait de constater les infractions, contrôler l'application du droit de travail, faciliter la conciliation. Et c'est un monsieur qui doit faire montre d'une certaine polyvalence par rapport à la diversité des missions lui reconnues. Donc, il faut un recrutement de toutes les sensibilités. On n'a pas besoin seulement des juristes, on a besoin des psychologues, on a besoin des économistes, on a besoin des intervenants spécialisés dans les différents secteurs. C'est vrai, il évoque là, il ajoute un élément de la dépolitisation. Mmh. Oui, effectivement. Puisqu'il est beau, il est bien bon que le gouvernement s'engage à recruter 1000 inspecteurs du travail. C'est vrai qu'on offre du travail, mais qui est-ce qu'on va prendre? Qui est-ce qu'on va prendre? C'est là où le bât blesse. Il faut dépolitiser. Voilà pourquoi j'ai évoqué la notion du mapping. Est-ce que le chiffre 1000 est le résultat d'un mapping, d'une cartographie qu'on a faite sur la gestion, l'inspection du travail à travers l'étendue du territoire, ou c'est un chiffre qui est le résultat des contraintes budgétaires? Et bien qu'il soit le résultat des contraintes budgétaires, est-ce qu'il y a des études en perspective qui se font en perspective de l'affectation de tous ces gens-là par rapport à la réalité, à la cartographie du monde du travail dans notre pays? Sinon, on aura engagé 1000 inspecteurs du travail, dont 600 ou 400 vont travailler à Kinshasa.
Oui, monsieur le ministre Bahati Lukwebo, vous avez suivi monsieur Polydor Tanguely qui vous pose la question de savoir si les chiffres 1000 sur lesquels vous vous basez et les résultats des mappings qui a été fait à travers les pays où c'est dû aux contraintes budgétaires.
Alors, je voudrais apaiser mon compatriote, tout comme celui qui est intervenu du Nord Kivu, pour dire que tous ces aspects ont été pris en compte. C'est-à-dire que nous sommes conscients que la fonction d'inspecteur du travail touche à tous les secteurs de la vie nationale. Même les architectes, les mécaniciens, parce que n'oubliez pas que, par exemple, lorsqu'il s'agit des bâtiments, nos inspecteurs doivent donner un quitus avant l'utilisation d'un ascenseur dans un bâtiment pour s'assurer de la sécurité, ainsi de suite. Et donc, nous sommes conscients qu'on va nécessairement recruter dans toutes les disciplines, que ce soit des agronomes, des politologues, des philosophes, des pédagogues, des juristes, des économistes, donc toute la diversité en ce qui concerne les différentes disciplines doivent être prises en compte. Deuxièmement, pour ce qui est du recrutement, le recrutement se fera à partir de la base. Nous avons déjà un document de travail qui détermine un quota par province. Évidemment, ici, on doit tenir compte aussi de l'activité économique dans chaque province. Vous êtes d'accord avec moi que une province où il y a, par exemple, 1000 entreprises ne va pas avoir le même nombre d'inspecteurs que là où il y en a 20. Et donc, nous tenons compte de cet aspect-là, mais les recrutements vont se faire à partir des inspections provinciales, à partir des divisions provinciales de travail. Et c'est eux qui vont nous envoyer le résultat de la sélection et au niveau national, nous n'aurons qu'à valider, bien sûr, en tenant compte des disciplines, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir obtenu, par exemple, 70%. Mais si les juristes qui se placent sur une liste où il y a 200 juristes, alors que nous avons besoin aussi de prendre un architecte, mais s'il n'a eu que 60, nous serons obligés, dans ce cas par exemple, de prendre un architecte qui pourtant a eu 60% au concours.
Monsieur le ministre.
Et donc, nous tenons compte de cet aspect-là, et pour également éviter la politisation, nous avons pensé qu'il fallait que ce soit les administrations provinciales qui procèdent au recrutement, ensuite, nous allons faire une mise en commun au niveau national.
Monsieur le ministre, vous pensez que les administrations provinciales ne sont pas politisées?
Des problèmes et des maux qui rongent notre société. C'est vrai que nous ne pouvons pas dire que nous allons atteindre la perfection totale, mais nous faisons de notre mieux pour que, en tout cas, ceux qui viennent ne le soient pas du fait qu'ils ont des affinités familiales ou politiques avec les décideurs. Encore que on va recruter un cabinet ou des cabinets privés qui vont procéder justement à l'organisation du concours et à la sélection. Et ces résultats-là seront portés à la connaissance du public avant que le gouvernement ne puisse les valider.
Monsieur le ministre, vous avez suivi...
Je crois que c'est une garantie supplémentaire. Nous espérons en tout cas avoir les meilleurs dans le corps des inspecteurs. Alors, pour revenir à une préoccupation qui a été soulevée par deux fois, en disant qu'on ne peut pas renouveler un corps jusqu'à plus de la moitié, non, ici, il ne s'agit même pas de renouveler le corps. Le corps est tout simplement dépourvu en personnel. Le cadre organique qui a été établi par les administrations de la fonction publique et du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévention sociale arrive au chiffre de 3700 pour réellement servir le pays entier. Mais par contrainte budgétaire, nous sommes obligés de le faire graduellement. Donc, dès les deux premières années, nous allons donc recruter les 1000 jeunes universitaires. Et après, bien sûr, avant nous devons leur assurer la formation. Là aussi, je voudrais rassurer le compatriote Tanguely que les inspecteurs ne vont pas entrer directement en fonction. Nous avons déjà formé les formateurs grâce au CRADAT l'année passée. Je crois qu'il doit avoir suivi les informations et les images. On a déjà formé des formateurs qui, à leur tour, vont former les recrues, donc les nouveaux inspecteurs qui vont être retenus après le concours. Et lorsqu'ils seront retenus, avant d'entrer en fonction, ils vont prêter serment devant la cour d'appel. Donc,
Monsieur le ministre, nous avons pris
toutes les précautions. Une fois de plus, je voudrais être humble et modeste pour dire que nous ne pouvons pas d'emblée affirmer la main sur le cœur que tous les 1000 inspecteurs seront vraiment l'idéal que nous recherchons. Mais nous voulons qu'un plus grand nombre de ces 1000, en tout cas, répondent au profil recherché.
Monsieur le ministre, vous avez suivi M. Tanguely Polydor qui dit quel pourrait être, n'est-ce pas, l'impact des 1000 nouveaux inspecteurs du travail si leurs conditions de travail ne sont pas améliorées.
Là également, j'ai tenu à obtenir le quitus du gouvernement pour que, en tout cas, les nouveaux inspecteurs puissent jouir d'un statut particulier. Et ceci est d'autant vrai que maintenant, l'inspection générale du travail a été élevée au niveau d'un établissement public. Donc, ceux qui vont diriger l'inspection auront le statut de mandataire. Et donc, le barème va être différent de celui de la fonction publique. Nous y avons déjà pensé.
Monsieur Tanguely, nous allons prendre pour vous cette question qui vient des Guimena, dans la province de l'Équateur.
Je m'appelle Philippe Chouami. Je suis syndicaliste à la Confédération syndicale du Congo pour les districts de Sud-Ubangui et l'Équateur. Comment les inspecteurs qui seront recrutés, les 1000 travailleurs là, comment ils vont travailler? Parce que sur le terrain, je suis syndicaliste, je vois que mes partenaires sociaux avec lesquels on se promène, les inspecteurs là, ils souffrent. Ils n'ont pas de moyens de déplacement. Ils n'ont pas un salaire décent. Ils n'ont pas de logement. Ils n'ont même pas de frais de fonctionnement. Alors, comment on va recruter, on procède maintenant à recruter 1000 inspecteurs au moment où ceux qui sont sur le terrain ont beaucoup de difficultés?
Voilà, on a relevé cette question dans cette émission.
Effectivement, Monsieur Guy, en intervenant tout au départ, j'avais dit, j'ai salué la réforme, mais en faisant un questionnement, je me disais, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue devant le bœuf? Imaginez-vous que la radio Okapi arrivait à vous demander de prester sans chaise, sans micro, sans casquette. Quel résultat obtiendrait-il de vous? Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il fallait vraiment des grands. Effectivement, j'avoue qu'il y a des choses qui sont faites. La revue du cadre juridique, le dispositif de recrutement, la mise à retraite. Il y a d'autres dimensions, c'est-à-dire la réhabilitation des infrastructures. On peut pas nommer quelqu'un inspecteur à Mobimbongo et il y arrive sans bureau comme certains magistrats sont retrouvés dans certains territoires. Donc, c'est une problématique diversifiée et complexe qui touche à différents secteurs de la vie. Je crois que nous avons les assurances du ministre. Nous n'avons qu'à nous fixer un rendez-vous au terme duquel nous allons essayer d'évaluer. Il est trop tôt de pouvoir jeter un regard trop critique et trop condamnateur.
Monsieur Polydor Tanguely, que faut-il pour améliorer les conditions de travail en RDC?
Que faut-il pour améliorer les conditions du travail en RDC?
À part le fait de recruter les nouveaux inspecteurs du travail, à part le fait de leur donner un salaire décent, quels sont les autres facteurs qui entrent en ligne de compte?
Au fait, ici, il est un problème de la vision. J'ai fait une observation de la comparaison de l'image qu'on a du travailleur dans le monde occidental et l'image qu'on en a dans nos pays en sous-développement. Aujourd'hui, s'il y a des localisations, c'est puisque aux États-Unis et en Europe, on tient compte de l'importance de l'homme dans le secteur du travail et on l'évite, on va investir ses capitaux ailleurs. Je crois que tout part de la vision. Est-ce que c'est l'homme qui est au centre, l'enseignant que j'utilise comme employé dans une institution quelconque, est-ce qu'il est au centre de mes préoccupations? Ou ce sont les préoccupations politiques, diplomatiques, qui pèsent sur l'homme que je dois utiliser comme employé? Tout part de là. Et lorsqu'on a une vision qui met l'homme au centre de préoccupations, et les conséquences vont venir. La revue juridique sera taillée sur mesure de cette vision. La réhabilitation des infrastructures sera taillée sur cette vision. Voilà pourquoi en psychologie, on parle d'adapter l'homme au travail et le travail à l'homme. Donc, tout part de la vision, c'est le maître mot de changement des conditions de travail.
Monsieur le ministre Bahati Lukwebo, que faut-il pour améliorer les conditions de travail, de travail ici en RDC? Vous avez suivi Monsieur Polydor Tangeli qui a parlé d'un problème des visions. Est-ce qu'il existe dans ces pays une politique de l'emploi?
Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais apaiser nos compatriotes Tangeli Polydor et le compatriote qui est appelé de l'Équateur, pour dire que nous avons pensé effectivement que pour que l'inspecteur puisse accomplir correctement sa mission, il faut le mettre dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions de travail, la rémunération, la logistique. Et c'est pour cette raison que je me suis battu pour que les crédits de l'inspection générale du travail, qui ne dépassaient guère 250 millions de francs congolais, pour toute l'année, que cette fois-ci, ces crédits soient portés à 4 milliards. Et vous pouvez le vérifier dans le budget, la loi de finances qui a été promulguée tout récemment. Et donc, les 4 milliards couvrent à la fois la rémunération des centres, les conditions de travail, les équipements, tout ce qu'il y a comme logistique, les bureaux, les moyens de déplacement. Et donc, j'y ai pensé. Nous y avons pensé au niveau du ministère et au niveau du gouvernement. Alors, pour revenir à la préoccupation que vous avez soulevée, je suis tout à fait d'accord avec le compatriote Tangeli qu'il faut mettre l'homme au centre de tout. Parce qu'effectivement, quand vous regardez un pays comme le Japon, qui n'a pas de ressources naturelles comme le nôtre, mais qui est développé, hyper développé, c'est grâce à l'intelligence humaine. Et donc, je suis conscient que effectivement, que celui qui investit en l'homme, il fait un bon investissement parce qu'il va entraîner tous les autres secteurs de la vie.
Monsieur le ministre.
Alors, pour répondre de manière brève à votre question, je pense qu'il faut tout lier également au processus économique. Parce que lorsque vous regardez notre économie telle qu'elle est conçue, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est une économie qui ne nous permet pas la diversification, la spécialisation, et dont les grands capitaux sont des étrangers. Et par conséquent, ils privilégient d'abord leurs propres intérêts. Il revient à nous, Congolais, au pouvoir, d'avoir une vision en ouvrant les grands dossiers, notamment le dossier du secteur agricole, le secteur forestier.
Merci, monsieur le ministre. Merci, nous sommes presque à la fin de l'émission. Monsieur Polydor Tangeli, votre conclusion?
Nous avons presque tout dit, nous avons posé les diagnostics, nous avons proposé des solutions. Je crois la dernière solution à proposer, c'est d'éviter à l'inspection du travail un balayage de tous ces cadres qui ont été formés, qu'on fasse une remise à la retraite progressive qui pourra permettre une communion de deux générations.
Merci. Je rappelle qu'on devait avoir le professeur Arsène Mouaka dans cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu le rejoindre. Merci. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur Radio Capi.